Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet d'une actualité brûlante qui est dans le cadre de cette émission, puisqu'il s'agit de sujet des émeutes urbaines, et dans urbain, il y a urbanisme, et c'est bien l'intitulé de notre émission, en tout cas son sujet principal. Donc, ce que je voulais dire, je ne vais pas trouver les réponses idéales, mais il semblerait que aujourd'hui le gouvernement, les grands esprits de notre pays se penchent sur les solutions possibles. Alors avant de trouver des solutions, il s'agit de bien poser le problème. Et donc, me semble-t-il, que les mots ne sont pas très justes pour désigner les problèmes dont ont subi les effets négatifs ces dernières semaines, justement qu'il faudrait aller plus loin dans ces définitions. Par exemple, on parle de ghetto, on parle de ghettoisation, on parle d'assignation en résidence, qui est un terme juridique qui signifie, comme vous le savez, on ne peut pas sortir de chez soi parce qu'on est sous un contrôle juridique et policier. Et tout cela me semble des analyses qui datent d'il y a longtemps et qui ne sont pas remises au goût du jour, en tout cas qui font partie aussi de ces répétitions où on n'a pas pris la peine de regarder l'évolution des problèmes et on a des explications toutes plaquées sur les événements depuis des décennies sans voir les évolutions et les politiques qui ont été mises en place et peut-être aussi le questionnement de ces politiques. Alors, en préalable, je dirais que notre culture française, et c'est aussi la qualité de cette culture, en opposition par exemple aux cultures anglo-saxonnes, en tout cas pour parler des États-Unis, nous sommes un pays dans lequel c'est la culture du territoire. Alors, il faut peut-être remonter à l'Antiquité, peut-être que dans l'inconscient collectif, il y a la mémoire dont les Romains ont colonisé la Gaule, ont colonisé les territoires de l'Europe, et d'une manière, on peut dire, territoriale, en incluant les populations et leur culture, et en développant un système de villes, là on y est, de villes qui étaient sur des plans orthogonaux, qui étaient totalement en rupture avec ce qu'il y avait précédemment dans ces territoires, et que le système de voies, le système d'une organisation particulièrement rationnelle fait partie de notre culture, en opposition avec des cultures qui sont beaucoup plus liées aux communautés, au peuplement, et beaucoup moins à l'impact et aux modifications de territoire. Tout ça pour dire que les politiques qui ont été celles de la ville, et c'est déjà parler de politique de la ville, ce n'est pas parler de la politique des populations. Et là, effectivement, dans cette opposition que je fais entre territoire et peuplement, entre les communautés d'humains et leur culture et le territoire et ses modifications, avec aussi ce qui sous-tend les cultures, en fait, on est certainement devant une différence totalement opposée entre certains pays, on peut dire les pays anglo-saxons et les États-Unis, et notre mode de pensée. Alors, la politique de la ville, on l'a entendu dire, qui déverse 10 milliards par an sur les quartiers dits sensibles, qui ont été on peut dire, numérotés dans notre pays, a pour effet de modifier l'urbanisme, de modifier l'architecture. Alors, il est évident que cette modification n'a pas fait l'objet de grandes théories. On a simplement dit que c'était les constructions de l'après-guerre qui étaient, encore une fois, construites comme des ghettos et qu'il s'agissait de les modifier pour les rendre plus conformes à notre vision de la ville. Tout ça n'a pas été vraiment théorisé et on entend dire sur l'historique justement de ces grands ensembles périurbains, je crois, beaucoup de choses qui sont fausses. Alors, c'est ce que je voudrais rappeler en premier. Donc, il faut voir la situation telle qu'elle s'est déroulée dans l'après-guerre. Et quand on entend dire que ces grands ensembles ont été construits pour les vagues d'immigration ou pour accueillir les rapatriés et aussi les autochtones d'Algérie qui sont venus dans les 30 Glorieuses faire la main-d'œuvre pour l'industrialisation de la France, bon, d'abord tout cela est totalement fou. D'abord, il faut rappeler que à la libération, après la guerre, la France était dans un état, à la fois une partie de la France, notamment la partie nord qui avait été amplement bombardée, il y avait des grandes destructions dans les villes, si ce n'est des villes comme Le Havre qui avaient été totalement détruites, mais il y avait surtout une insalubrité dans de nombreux quartiers qui demandaient effectivement des travaux, si ce n'est des travaux, mais aussi de créer des logements. La France avait un retard très important. Il faut dire que la guerre et l'occupation n'ont pas résolu les problèmes, avait un retard sur, on peut dire, l'hygiène, c'est-à-dire les salles de bain, les WC, dans les logements, et que les villes anciennes étaient particulièrement en retard, même sur la plupart des pays occidentaux et aussi nos voisins européens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cache un peu, c'est un peu honteux. Et donc, il y avait aussi plusieurs phénomènes. Donc, le phénomène d'une part du baby-boom, avec des familles, avec des enfants, qui devaient être logés dans des conditions décentes, et aussi un phénomène qui était l'exode rural, comme on a pu l'appeler, mais qui faisait que la France se modernisait. Il y avait des emplois dans les bureaux, il y avait aussi une industrialisation du commerce, et donc dans ce redémarrage de l'après-guerre, il était important que l'on construise des logements. Donc on a construit des logements sur les plans de la modernité. Et il faut dire que ce n'était pas du tout mal pensé et désolant. Et ce n'était pas la construction de ghetto. Encore que ce mot ghetto est aussi un mot qui est, à mon sens, totalement faux pour être employé, que ce soit maintenant ou dans les décennies d'avant. Il n'y a pas de ghetto en France. Le ghetto était, il faut le rappeler, et c'était là où les Juifs étaient obligés de vivre. D'ailleurs, ils avaient été eux-mêmes, pour ne pas avoir des pogroms, c'est-à-dire des attentats, là où ils habitaient. Il y avait donc les grilles, le ghetto de Venise par exemple, que l'on fermait le soir, et donc il y avait une séparation entre les populations, mais aussi on ne pouvait pas, les Juifs ne pouvaient pas habiter ailleurs que dans le ghetto. Alors on a l'image du ghetto de Varsovie, dramatique image, avec la destruction du ghetto et les populations affamées jusqu'à leur extinction. Donc ce mot, comme celui d'assignation à résidence, et il n'y a jamais eu de cela en France. Donc, pour venir Pour revenir à cette question des grands ensembles, il faut dire qu'ils étaient pensés d'une manière généreuse, c'est-à-dire les logements allaient avoir la lumière, le soleil, ils étaient suffisamment espacés pour ne pas avoir de l'ombre, et aussi, une chose qui est oubliée, il s'agissait d'avoir des cités vertes, des cités plantées, et ceci fut mis en œuvre immédiatement. Alors, il y a aujourd'hui, justement, où on reparle de reverdir les villes, etc., mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce que pensent les écologistes, puisque, en fait, toute la politique urbaine, on peut dire, du XXe siècle, était justement de faire rentrer la nature près des logements, et donc ces grands ensembles étaient conçus, bien conçus, à la fois dans les appartements, qui avaient évidemment tous les conforts possibles dont manquaient les populations de l'époque, et il y avait donc des espaces verts. Alors vous me direz, mais où ils sont passés ? Eh bien, figurez-vous que à cette époque-là, il n'y avait pas d'automobile ou très peu. Je crois que dans l'après-guerre, c'était une famille sur 10, donc on peut dire que les familles modestes, ce devait être la moitié, c'est-à-dire une voiture sur 20. Donc on n'avait pas pensé au problème du stationnement des véhicules. Alors, dans les années suivantes, effectivement, il y a eu les 2 chevaux, les 4 chevaux, les voitures démocratisées, en même temps que les salaires augmentaient, c'est-à-dire la France sortait de sa pénurie petit à petit, et on avait ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Donc les ménages avaient plus d'argent, on avait droit à un confort qui était les arts ménagers, c'est-à-dire machines à laver, les premiers cycles dans ces années 50 et 60. Et donc, les voitures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, puisque ce n'était pas prévu? On a bitumé à la place les espaces verts, les grands arbres. Et les arbres n'avaient pas eu le temps d'avoir des grandes dimensions. Et on a paré au plus pressé. Et ce qui semblait être la chose la plus simple. Alors, il est évident que les espaces bitumés entre les bâtiments ont changé l'apparence. Alors certains ont conservé, il y a certains HLM de qualité qui ont pu avoir des parkings, mais on peut dire que dans l'ensemble, ces logements ont été ainsi. Alors dans les années 60, on peut dire que ce niveau de vie augmentant dans les populations, on a eu un désir des classes moyennes, justement, de retrouver la verdure qui avait été perdue. Même si je caricature un peu mon propos, ça a été la maison individuelle, ce que les Parisiens appellent le pavillon, qui devenait le rêve des Français. Alors, effectivement, on avait encore une fois le rêve du jardin, de la nature, et on peut dire qu'il y a eu non pas un exode poussé par des migrants comme on voudrait l'entendre, mais il y a eu cette mutation de population, et on a eu des nouvelles populations qui sont arrivées, avec effectivement là, issues de l'immigration, qui remplissaient les besoins que l'on avait dans l'industrie automobile, dans l'industrie en général, dans le bâtiment. Cela s'est fait, on peut dire, d'une manière assez souple et sans heurts. Alors, ce phénomène, on peut dire, a continué, et c'est un phénomène dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire qu'il y a une migration continue des nouvelles populations, et on peut dire vers aussi une dispersion dans les territoires, et aussi avec une appétence pour la maison individuelle. Alors les populations justement qui sont venues de l'étranger, eh bien, elles ont eu exactement le même phénomène que qu'il s'était passé quelques années avant. Et donc, libération des logements, et on peut dire que jusqu'à une période récente, jusqu'à maintenant, mais ça continue ce phénomène, on peut dire que les mutations se font dans le parc, on peut dire le parc HLM, le parc social. Alors évidemment, on est tout à fait loin du ghetto, on est tout à fait loin de ce que je vous disais, assigné à résidence, puisque au contraire, on a dans le logement social de grands mouvements en permanence. C'est-à-dire que les gens, ils ne fuient pas forcément, mais évidemment, ils ont des désirs autres. Et puis, c'est vrai que sur les dernières décennies, il y a eu aussi des problèmes de vol parmi les venant aussi des nouvelles populations qui sont aspirés, et les nouvelles populations qui arrivent de l'immigration et qui sont logées dans ce parc. Alors, en parallèle, effectivement, le parc est amélioré, les logements ne sont pas du tout dégradés, ils sont mis aux normes, surtout avec les normes thermiques aujourd'hui, mais également avec la politique de la ville, on a une amélioration de l'environnement, on a aussi les politiques de démolition, reconstruction, qui ont même été un peu abusives, et je voudrais aussi parler de cela. Donc, le phénomène est un phénomène, on peut dire, continu, et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, les offices HLM sont obligés par les lois de loger les nouveaux entrants. C'est le préfet qui impose cela. Donc on a pu accuser les offices HLM d'avoir entasser la misère, entasser les pauvres gens. Évidemment, tout ça n'est pas juste, et au contraire, c'est complètement faux, puisqu'il s'agit, les gens peuvent tout à fait quitter leur logement, retrouver d'autres logements sociaux, ou alors, ce que je vous disais, c'est-à-dire de loger si leurs conditions de vie s'améliorent, ce qui est évidemment quelque chose qui est assez naturel et normal, habiter dans des maisons individuelles. Donc je vais marquer une pause musicale et on va continuer cette conversation.
Élevés, glaçons, mojo, plafond, bien tissé, des liens, cutter, quarker, araignée au plafond, mojo, à fond, tous les jours dans le building, sauf le 11 septembre, dans la direction du regard de ta pétasse, on est posé là avec classe, on cherche même pas des salopes, on vient gonfler la cagnotte, faire fortune avec trois notes, arrêter de stresser la daronne. Hey yo, pendant ce temps-là, des chiennes me cherchent radop. SPA, respect à mes gars sur les monsieur gang. Négro, j'en ai rien à foutre de ce game. Je compte même pas rester là. J'en dirais que la paillade. Ta meuf se maquille comme Ramayad. Donne-moi les chiffres du loto. J'prenne un billet pour Kyoto. Pas la peine de dire lever ton verre en l'air. Passe-moi dans le club avec une belle anglaise. Tous les gars sont très lents, partout je peux te faire en yo. Négro, père, j'ai mon fer en guest. Pas la peine de dire lever ton verre en l'air. Passe-moi dans le club avec une belle anglaise. Tous tes gars sont très lents, partout je peux te faire en yo. Négro, père, j'ai mon fer en guest. Hey.
Donc, pour résumer ce que j'étais en train de dire, donc on a pensé que les politiques de la ville ont été essentiellement des modifications du bâti, des modifications de l'urbanisme, et que les problèmes sociaux seraient résolus à travers ces modifications. Comme je vous disais, c'est une question idéologique. Et donc, on a pensé que les bars par leur longueur, leur monotonie, étaient la cause du mal-vivre des gens, du fait qu'il y avait des populations qui quittaient ces logements, étaient remplacés par d'autres, et que les problèmes sociaux, bon, c'est vrai qu'il y avait eu des vols, des émeutes, on voyait qu'il y avait des problèmes de maintien de l'ordre dans ces ensembles bâtis, et donc on attribuait cela, comme je vous disais, à la longueur des barres et aussi les tours. Alors les tours étaient dans la théorie bourdieusienne, de l'entassement de la misère, là aussi c'était quelque chose qui était visualisé. Donc si on détruisait les tours et on les remplaçait par des petits immeubles, eh bien on avait résolu le problème. Alors il faut rappeler une chose, c'est que dans les États-Unis, que je prenais comme contre-exemple tout à l'heure, les fameux ghettos, que l'on n'appelle pas ghettos, on les appelle les black neighborhoods, c'est-à-dire les quartiers noirs, et le mot ghetto n'est pas employé. Et là, pourtant, on avait dans les années dont on parle, justement, des populations qui ne se mêlaient pas du tout, et avec effectivement un apartheid social qui n'existait et qui n'a jamais existé en France. Bon, je ferme la parenthèse par rapport à cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a une inversion aux États-Unis, c'est-à-dire que, par exemple, dans les grands centres-villes, on connaît à New York les nouvelles tours d'habitation qui sont créées, mais c'est un phénomène qui est assez ancien, et qu'on peut dater de 30-40 ans. Les immeubles d'habitation, ou même plus d'ailleurs, par exemple à Détroit, il y a qui est une ville, on peut dire, de maisons individuelles avec des quartiers noirs de maisons individuelles. Il y a des immeubles, et notamment des immeubles de très grand luxe qui s'appellent à Lafayette Park, mais il y a la même chose à Chicago et dans de nombreuses villes, qui sont au contraire des immeubles de grande hauteur, et on peut dire, quand on les voit de loin, ça a l'air d'un grand ensemble. Simplement, c'est des concentrations de riches, et on a justement les pauvres qui habitent dans des maisons individuelles. Donc en fait, tout cela est assez absurde de penser que il y avait une architecture criminogène. J'ai déjà parlé de cela. L'architecture criminogène, c'est-à-dire que la forme des bâtiments qui allait générer de la criminalité, ça c'est une bêtise française et qui est au cœur de nos politiques. J'ai bien peur que l'on continue de penser qu'en modifiant les bâtiments, on va retrouver avec des artifices qui vont être, encore une fois, je ne sais pas si ce sera du verdissement, ou de la démolition des bâtiments longs, mais évidemment ce n'est absolument pas le problème. Alors il y a une autre croyance qui est assez généralisée d'ailleurs, et qui est celle de la mixité sociale. Alors de penser que du fait de ces séparations sur le territoire de niveaux de vie différents des populations, et Madame Clémentine Autain, dans Libération récent, justement, en commentant les émeutes, elle, évidemment, dans la prose délirante et accusatoire des maires délinquants qui n'appliquent pas la mixité sociale en ne construisant pas des HLM, là on est quand même dans quelque chose d'une hypocrisie absolue, parce que les mêmes écologistes qui demandent l'interdiction de toute construction nouvelle en même temps qui accusent les maires qui ont des problèmes de foncier du fait qu'on n'a plus de terrain pour construire, aujourd'hui les accusent de ne pas construire des logements. Ça s'appelle l'injonction contradictoire, et c'est une, là aussi c'est une folie française. Mais ce dont je vous parlais, c'était la mixité. Alors là aussi, on est sur une illusion de penser que en mélangeant, il est évident ce que on ne peut faire, c'est que mélanger les pauvres chez les riches. Donc la mairie de Paris achète des appartements à 10 000 euros le mètre carré et pour mettre des locataires HLM, des gens plus modestes, ce qui évidemment coûte d'une fortune à la collectivité et qui ne correspond à rien parce que on pourrait étendre cela aux véhicules et acheter des Ferrari avec des quotas, enfin tout ça pour les pauvres au nom de la mixité. Tout ça n'a évidemment aucun impact. Alors il est évident qu'il est encore plus compliqué de faire venir des riches, même si ce n'est impossible, de prendre les riches et de les faire venir chez les pauvres. En plus de cela, il y a quand même derrière tout cela une vision totalitaire du déplacement des populations. Et on sait qu'en Chine, par exemple, il y a des migrations forcées de populations de paysans que l'on a du mal à contrôler. Et on les amène justement dans des grands immeubles, des pauvres gens qui quittent leur petit jardin, leur vie campagnarde tranquille, et on les met dans des immeubles où ils peuvent être surveillés. Ça, c'est, je pense, un des drames de notre époque dont on ne parle jamais. Mais revenons à la France. Il est évident que le choix d'habiter les populations est quelque chose qui existe et tout le problème, c'est qu'il y ait suffisamment de logements pour donner le choix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et j'ai parlé précédemment de la crise du logement. Donc, il faut qu'il y ait une abondance de l'offre, une variété de l'offre, et puis le libre choix des gens, alors évidemment, avec toutes les aides possibles. Donc, vous voyez que on a des causes qui sont liées au territoire et à la forme et qui ne sont pas résolues. Et on a vu que les 5 milliards qui ont été déversés n'ont pas empêché les émeutes. Et au contraire, il semblerait que l'on ait saccagé les opérations les plus récentes de bâtiments publics bon, évidemment sans parler des centres-villes qui ont été saccagés. Donc il y a un problème qui est celui du dernier peuplement. Donc tant il n'y a pas des ghettos, mais il y a simplement, comme je venais de vous l'expliquer, des nouvelles populations qui rentrent et des populations qui ne partagent pas les règles communes. Donc il y a un problème, il faut le dire, il y a un problème de maîtrise des flux migratoires. Et malgré ce que dit Darmanin, qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Mathéos ou de gens qui s'appellent qui sont de nationalité française, la question est le problème de l'incorporation dans la communauté nationale et je pense que c'est le problème essentiel. Alors évidemment, lié à cela, il y a le problème des trafics. Il est évident que les mafias, tout ce qui est hors la loi, et toutes les sociétés ont une part d'économie cachée et d'économie, on peut dire, illicite, illégale, et que la main-d'œuvre immédiate, ce sont les immigrations, comme l'immigration même à l'intérieur de l'Italie, les réseaux de mafia qui importaient du sud vers le nord. Donc on peut dire que c'est un phénomène qui est universel, et d'avoir les gens les plus fragiles et démunis qui fournissent la main-d'œuvre des mafias. Alors on peut dire que aussi le troisième problème que l'on pose, donc le problème d'immigration, le problème des mafias et donc le problème de la drogue, qui est une réalité, et là aussi ces économies parallèles, bah, elles sont nourries par le fait qu'il y ait aussi des clients. Donc le problème est aussi des problèmes de contrôle et les problèmes de consommation de drogue, qui est un problème évidemment qui échappe à la démolition des immeubles. Et ce n'est pas en démolissant les immeubles comme l'on a pu faire. Il y a ce fameux exemple d'une résidence qui était devant le Mirail, qui a été dans lequel il y avait, qui était devenu, c'était une résidence étudiante qui avait été petit à petit squattée par les dealers, ou je pense même en confectionnait de la drogue, et il y a eu un règlement de compte avec un crime, et on a démoli l'immeuble. Et tout le monde était très satisfait de cela, parce que on avait, par une sorte d'exorcisme, tuer le problème en démolissant l'immeuble. Évidemment, on n'a rien résolu, et ça n'a fait que depuis, puisque ce dont je vous parle, c'est il y a quand même probablement une quarantaine d'années, la situation n'a fait que croître et embellir. Alors, la question est également, qui est certainement lié, est un système effectivement qui est, on peut dire, de séparatisme, et ça c'est très facile si on vient dans aujourd'hui ce que semble-t-il beaucoup de commentateurs ne font pas, aller voir d'abord le changement qui est tout à fait positif de ces quartiers qui sont aujourd'hui de très belle qualité, l'espace public, les logements, mais on a un changement de population, avec notamment des vêtements religieux, c'est quelque chose qui n'existait quasiment pas avant. Donc on a aussi, c'est pas un problème de l'islam, c'est un problème de l'islam radical, qui effectivement a pris cette religion, on peut dire, sous sa coupe, et on voit une dérive extrémiste qui n'existait pas, dont on peut dire qu'il n'existait pas d'abord au Maghreb. Pour les gens qui ont voyagé ou qui ont vécu au Maghreb, ça n'existait absolument pas. Donc c'est des choses qui arrivent d'Arabie Saoudite, à la fois les costumes, à la fois les musiques, à la fois les pratiques religieuses, et c'est-à-dire de quelque chose qui est totalement étranger à nos cultures, même si on les étend à nos cultures méditerranéennes. Alors il est évident que c'est un vrai problème, parce que il y a un séparatisme induit par les frères musulmans, par ces groupes. Et on peut dire que aux États-Unis, on a eu le phénomène inverse, c'est-à-dire que les églises américaines, vous savez qu'il y a des très grandes floraisons d'évangélistes, d'églises, mais elles ont eu un poids important sur les communautés, notamment dans les quartiers noirs, pour apaiser les tensions qui étaient extrêmement vives dans les années 70. Et ça a été un grand élément de pacification, c'est-à-dire qu'on peut dire que l'État central ou fédéral a délégué aux paroisses et aux communautés religieuses une grande partie de l'aide sociale et évidemment de l'éducation, de la pacification qui s'est passée. Donc l'analyse que je fais, donc l'analyse, pour résumer, c'est celle de mauvais emploi des mots d'erreurs d'analyse et de compréhension. Et quant aux trois causes qui sont l'immigration, la drogue et les dérives, les extrémismes religieux, bon, je crois que tout le monde est capable de voir cela, et c'est un problème qui demande du courage à nos politiques pour les résoudre. Je vous souhaite une bonne semaine.